Michel et Paul-Henri, qui est notre invité aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler maintenant d'un sujet qui passionne les foules au niveau national, les prochaines élections présidentielles. Qu'as-tu à en dire dans ton contre-regard de la semaine?
Oui, c'est sûrement un contre-regard, parce que j'ai essayé d'analyser les choses autrement que ce que je peux lire dans la presse de manière générale. Et je me disais, tiens, il faut quand même reconnaître au moins à Jean-Christophe Cambadélis une grande lucidité politique. Hein. Et c'est vrai qu'il sait correctement analyser les rapports de puissance, dans un champ politique notamment, ce qui est la qualité, il faut bien le constater, première de dirigeants du PS qui sont passés, qui ont été formés comme lui d'ailleurs, à l'école trotskiste.
À l'extrême gauche.
Ah oui, extrême gauche. Hein. Tendance Lambert, celle de Jospin, quand il a été premier secrétaire du PS. Hein, et Cambadélis considère encore aujourd'hui, et après l'onde de choc provoquée par la publication de ce fameux
livre, le grand bouquin du siècle.
L'homme d'Avé, on va l'appeler l'homme d'Avé, hein, qui ressemble à une forme, c'est vrai, de suicide personnel, et donc quand même collectif pour le PS et pour la gauche.
C'est presque la ceinture d'explosifs chez certains.
Ah oui, donc Cambadélis dit, ouais, il n'y a pas d'alternative à la candidature du président sortant. Et je considère qu'il a raison, et c'est mon point de vue. Mon point de vue, et je trouve fondé. Pourquoi? Parce que François Hollande, hein, après on pourra contester l'analyse, évidemment, hein, et de fait, celui qui, au PS, ne rassemble pas le plus, ça c'est au moins qu'on puisse le dire, certes, mais qui néanmoins divise le moins. Hein, et en politique, c'est la seule résultante de force qui compte. C'est pas bon d'additionner tous ceux qui sont d'accord. C'est au contraire d'être celui qui divise le moins, hein, au sein de son camp.
C'est le plus petit commun diviseur, comme dirait les mathématiciens.
Voilà, exactement. C'est exactement ça. Alors, évidemment, au-delà de la personne, c'est sa ligne, en fait, sa ligne politique à laquelle je pense, qui est plutôt, en fait, si on prend le qualificatif des frondeurs, social-libéral. Alors, au pire, hein, ou au mieux, selon certains, s'il battait la présidentielle, à condition évidemment de se présenter aux primaires et de les gagner, ce qui n'est pas non plus évident, quoi, hein, la conséquence en serait de purger la gauche de son quinquennat. Hein, et ainsi, Valls, Montebourg, Aubry auraient les mêmes propres et libres pour prendre et refonder un parti à miettes. Ce que plus personne aujourd'hui ne cache et ne conteste. Deuxième hypothèse, le président sortant décide de passer la main.
Et là,
le match se jouerait entre Valls et Montebourg, au sein du PS, au sein de la primaire. Sauf que, pour les deux, c'est un véritable traquenard politique et idéologique. Pourquoi? Parce que, et surtout Valls, il n'a aucun intérêt à s'y présenter.
Ah, c'est le casse-pipe, là.
Son intérêt, c'est plutôt de laisser Montebourg y aller, hein, de se prendre une gamelle à présidentielle
mémorable,
de se retrouver avec un parti socialiste complètement déstructuré, en fait, et en miettes. Hein. Alors je dis Montebourg brûlé à miettes, en fait, complètement désintégré. Pourquoi? Parce que coincé entre Mélenchon sur sa gauche, qui engrange un maxi en ce moment, et un Macron sur sa droite qui va se présenter de toute façon à la présidentielle, il va pouvoir se présenter illégitime pour prendre la direction d'un parti complètement disloqué et enfin disponible pour Valls.
Mais qui dit que Valls irait?
Mon intime conviction, c'est qu'il n'a pas intérêt à y aller. Oui. Reste à savoir si aujourd'hui, la pression, en fait, plutôt demain, la pression ne sera pas telle qu'il ne sera pas obligé d'y aller.
Oui,
c'est une autre question.
En politique, parfois, on y va, même en reculant, si l'appareil est suffisamment persuasif et pousse.
Exactement.
Pour terminer cette deuxième partie, alors, Narbonne à l'honneur.
Oui.
Dans le Figaro, c'est la gestion de la ville municipale.
De Narbonne, oui.
La gestion municipale de Narbonne qui est mise à l'honneur. Alors explique-nous ça, Michel.
À ma grande surprise.
Puisque c'est assez inhabituel dans ce type d'émission radio.
Oui, comme je trouvais pas très correct quand même que la presse locale ne rapporte pas cette magnifique photo hein, qui m'a surpris.
Il y a la photo et puis
l'étude. Positif. C'est une belle photo de Narbonne, enfin la passerelle des deux rives, les trois ponts,
entre deux villes. Nous avons ici l'archiviste qui va nous rectifier.
Entre deux rives. Magnifique photo, pleine page sur le Figaro, en fait numérique. Je suis attiré évidemment par l'article qui suit, un article qui résume le rapport rendu par la Cour des comptes, hein, par la Cour des comptes Paris National, hein, qui fait la synthèse de l'ensemble des rapports des chambres régionales des comptes sur la gestion des finances locales par les collectivités locales et notamment les communes en l'espèce. Et donc effectivement, dans cet article, sous la photo de Figaro, hein, dans cet article, il y a un satisfecit apporté à la ville de Narbonne. Alors, qui prend en compte sa gestion de son personnel municipal pendant la période qui va jusqu'en 2014, donc antérieure à l'arrivée de Didier Mouly aux affaires.
Donc essentiellement le mandat de Jacques Bascou.
Exactement.
Pour être clair.
Exactement. Alors, de manière générale, pour nos auditeurs, ce que ce rapport fait observer, en fait, c'est que dans les collectivités locales, hein, dans les 103 collectivités locales qui ont été retenues et dont la Cour des comptes a fait la synthèse, le temps de travail, puisque c'est là-dessus que la focale a été mise par l'article qui est illustré par la photo de Narbonne, le temps de travail évalué dans ces 103 collectivités est de 1562 heures par an.
C'est-à-dire, grosso modo, 2 heures de moins par
que
semaine
la durée
que
légale,
la durée légale. Ce qui ferait autour de 33 heures de moyenne.
Exactement.
De moyenne.
Exactement. C'est-à-dire 100 heures de moins sur l'année, bon, par rapport à la durée légale qui est de 1600 et quelques.
Alors, c'est pas la peine de revendiquer les 32 heures et on y est presque.
Voilà. Oui, ben exactement. Alors, la note. La Cour note cependant que grâce... Là, c'est la ville de Narbonne. Grâce à des actions d'analyse, de prévention et de répression, à partir de mesures incitatives, je cite, à partir de mesures incitatives et managériales, pouvaient conduire à une baisse sensible de l'absentéisme. Et l'article précise qu'à Narbonne, effectivement, grâce à cette mise en œuvre de cette procédure, on est passé d'un taux d'absentéisme de 10,5% en 2011, on est précis, à 9,7% en 2014.
Ouais.
En 2014.
Dire que c'est révolutionnaire serait peut-être exagéré, mais c'est quand même un résultat.
D'autant que chez la ville voisine de Fleury, pour ne prendre que cet exemple-là, non seulement on est largement en deçà des 32 heures hebdomadaires de la ville de Narbonne, puisqu'ils en sont à 1505 heures.
Par an.
Mais eux, ils en sont à un taux d'absentéisme de 15,8% avec une tendance à la hausse, alors qu'en Narbonne, on est à 9,7% avec une tendance à la baisse. Ce qui veut dire... Alors, la Cour met en évidence ce genre de choses. Pourquoi ? Pour mettre en évidence que c'est un rapport sur les finances locales, que si on pouvait difficilement jouer, en fait, je parle des collectivités locales, sur les traitements judiciaires des agents qui dépendent de décisions nationales, par contre, en jouant sur le temps de travail effectif réalisé par leur effectivement agent, on pouvait gagner effectivement en productivité et donc en compression, si je puis dire, de personnel pour les gestions futures. Alors, autre remarque faite par la Cour, de manière tout à fait un peu anecdotique, mais quand même, quoi, c'est que ces temps de travail en moyenne annuel, à moyenne annuelle nettement inférieure au temps de travail effectué dans le privé, résulte aussi de jours de congé qui sont donnés, attribués, ou qui sont des coutumes locales.
Beaucoup de collectivités territoriales. Locales,
par exemple, 9 jours de congé supplémentaires liés aux coutumes locales en question, mardi gras, mercredi de cendre.
Dixit donc le rapport
et la fête de la commune. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes signée par Didier Migaud, qui est une instance
parisienne
et qui s'appuie sur des constats faits par la Chambre régionale des comptes quand elle a effectivement audité la ville de Narbonne. Alors, cela dit, ce qui est intéressant, c'est à savoir, depuis 2014, est-ce qu'il y a du mieux ?
Voilà, c'est la question. Il faudra attendre le prochain rapport et donc un certain nombre d'années. Et on marque une pause longue en attendant ce prochain rapport.